Alors, l'exposé était bien minuté, donc vous avez pas mal de temps pour poser les questions. Je pense qu'elles vont de nombreuses, je vous laisse quelques minutes et je pense que raisonnablement, on va essayer quand même de finir à 10 heures. Donc, c'est vers moins le quart, ça laisse quand même une demi-heure de questions, ça sera bien raisonnable. Je pense que vous aimerez rentrer assez tôt. Je remercie en attendant que vous prépariez vos questions, parce que je me suis rendu compte dans les premières réunions qu'il y avait toujours un petit creux, donc je vous laisse déjà les chercher. Je remercie les intervenants pour ces exposés sur l'histoire des différentes confessions, et je dirais que je suis content de pouvoir dire à la manière amiche, c'est du travail bien fait. Alors pourquoi la manière amiche? Les amiches, il ne faut pas dire que c'est beau, le beau c'est superflu. On essaie toujours de bien travailler. Je vais maintenant vous laisser la place aux questions. Je ferai les annonces par la suite. Pour la première, je tire le câble.
Est-ce qu'il est toujours aussi mal vu de prêcher avec des notes? Et est-ce qu'on n'admettrait pas aujourd'hui qu'il vaut mieux noter par écrit afin de ne pas l'oublier ce que l'esprit nous révèle la nuit par exemple, plutôt que de reprendre toujours point par point et mot par mot le sermon que l'on tient de son nom, qui le tenait de son grand-père, qui tenait du cousin de sa belle-mère?
Bon, alors évidemment dans le cas de figure que vous évoquez, je pense qu'il serait souhaitable qu'il y ait quelques notes. Bon, ceci étant dit, effectivement, on pourrait imaginer que, bien sûr, ce qui s'est passé pendant la semaine et ce qui a été le sujet de méditation de quelqu'un qui va s'exprimer le dimanche dans sa semaine va influencer ce qu'il va dire le dimanche. Donc, il n'est pas exclu qu'il ait, d'une manière ou d'une autre, préparé un peu ce qu'il va dire le dimanche. C'est vrai que ça ne tombe pas forcément comme ça au dernier moment. Mais, ceci étant dit, notre désir, c'est de ne pas, si vous voulez, le souci, c'est que l'homme, les pensées humaines et la volonté de chacun ne prennent pas le dessus sur ce que l'Esprit dit aux assemblées, selon l'expression de l'Apocalypse. Donc, a priori, même si on peut avoir un peu préparé, on peut avoir des pensées structurées sur tel et tel sujet, ça fait partie peut-être de la préparation. Peut-être avoir dans sa cartouchière, je dirais, pour reprendre l'expression de l'Armée du Salut, quelques idées, quelques pistes de choses qu'on pourrait dire. Il est important pour nous d'arriver quand même sans que personne n'ait décidé « aujourd'hui c'est moi qui parle et c'est moi qui parle sur tel sujet ». Bon, alors je veux bien croire que si ça oblige chacun à être spirituel, c'est-à-dire à vraiment vivre près de Dieu, et effectivement, si personne n'est spirituel, ça sera effectivement le sermon du grand-oncle qui avait hérité de la cousine, etc. C'est ça, c'est certain. Si vous voulez, c'est une voie difficile, mais à mon sens, qui vaut la peine d'être appliquée.
Vous disiez que les assemblées se réfèrent donc à la Bible de Darby, hein, en français. Quand John Darby traduit la Bible, il sait l'hébreu et le grec, et il se réfère forcément donc à la tradition de l'Église, pas de l'Église locale, mais de l'Église en général, avec le canon des Écritures. Hein. Oui. Et il a des manuscrits, comme tout le monde, les manuscrits qui sont courants à l'époque, quoi. Il n'a pas tous les manuscrits d'ailleurs, hein. Comme Louis II aussi, il lui manque des manuscrits, mais il va chercher sur les manuscrits. Comment se fait-il qu'après, il y a eu une sorte de... On est figé, justement, et qu'on n'ait pas continué dans l'esprit de Darby cette recherche théologique, c'est-à-dire cette lecture, cette recherche de manuscrits pour avoir une traduction la plus fidèle possible?
Donc Darby a traduit la Bible en français en 1885, hein, et je pense que pour l'époque il devait avoir de bons manuscrits, parce que souvent, d'accord, souvent, bon, je suis pas expert, hein, mais il cite souvent en note des variantes de textes plus récents, et donc il estime moins bons. Donc il a essayé de s'appliquer à rechercher des manuscrits assez anciens, donc qui sont toujours les plus fiables. Mais effectivement, la traduction de 1885 est encore utilisée telle qu'elle aujourd'hui. Alors, ce qui peut être regrettable, je pense que la raison est simple, c'est qu'il n'y a, dans notre grande famille, si vous voulez, il n'y a eu personne de suffisamment compétent depuis pour l'actualiser. Mais c'est en cours. Vous me direz, ça touche 2000 mots. Enfin, 2000 retouches sont en cours. On a enfin un spécialiste, donc il est en train d'essayer de, d'une part, moderniser, d'autre part, le langage, parce que c'est quand même, bon, dans la Bible d'Arbis, c'est jamais un bateau, c'est toujours une nacelle, par exemple. Bon, c'est des choses qui gênent les lecteurs qui ne sont pas habitués. Bon, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, donc ça ne me gêne pas. J'arrive plus à lire les autres, d'ailleurs. Mais voilà, donc ça a besoin d'être modernisé et peut-être revu. Nous attendons des spécialistes.
Je ne sais pas si j'ai bien compris tout à l'heure, mais il me semble avoir entendu que donc vous préfériez le baptême des adultes, mais que le baptême des enfants était accepté. Quel est le sens du baptême des enfants dans ce cas-là, si j'ai bien compris ?
Alors, pour nous, le baptême est un signe extérieur d'une réalité intérieure. Alors, nous pourrions faire comme l'armée du salut, c'est-à-dire ne plus le pratiquer du tout. Nous le pratiquons aussi sur les enfants parce que, si vous voulez, ça va être un signe extérieur de leur appartenance à la famille de Dieu. On se base un peu sur un verset de 1 Corinthiens 7 qui dit « Lorsque les parents sont croyants, les enfants sont saints ». Donc à partir de là, on peut mettre sur eux ce signe extérieur, cette marque de l'appartenance au Christ. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont sauvés à jamais. Si évidemment un enfant grandit et ensuite prend une autre voie, évidemment, il ne sera pas considéré comme un chrétien. Mais c'est appuyé sur le fait qu'un enfant de famille chrétienne se trouve dans la sphère de la famille de Dieu. Ça en reste là. Alors, je constate que de plus en plus, le baptême de confessant est de plus en plus pratiqué. Alors, il y a un peu les deux écoles, mais sur ce point-là, en tout cas, on n'est pas trop... c'est pas trop un sujet de discorde. Les deux attitudes sont acceptées. Alors peut-être...
1940, parce que nous avons eu, à ce sujet-là, de grosses discussions. Mmh. En certains temps, moi, j'étais pour le baptême des enfants, comme c'était l'origine. Et depuis 1940, il y avait deux classes, si vous voulez. Un frère suisse qui était exactement le contraire, avec lequel j'étais en complète... discussion. Mais ça a complètement changé, ça c'est vrai.
C'est vrai que Darby était pédobaptiste, comme on dit, pour le baptême des enfants, il le pratiquait essentiellement. C'est vrai aussi que les frères Large ont souvent fait le contraire. Bon, voilà, hein, les deux attitudes sont acceptées et le baptême des adultes est en progression, je dirais. Voilà, des confessants du moins, adolescents et adultes confessants.
Est-ce que pour vous le baptême sauve ou alors est-ce que c'est un engagement, s'il vous plaît?
Alors, le baptême ne sauve pas. Si on lit dans Marc 16, on lit que celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Donc, cru et baptisé. Mais par contre, on lit que celui qui n'aura pas cru sera condamné. Donc, ce n'est pas qu'il n'a pas été baptisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez, c'est ce que dit Jésus. Hein. Donc, le baptême va avec la foi, tout naturellement, et il la symbolise. Donc le croyant baptisé est sauvé. Mais imaginons un croyant qui n'aurait pas eu le temps d'être baptisé, pour une raison ou pour une autre, il serait sauvé quand même. Et imaginons quelqu'un qui serait baptisé sans avoir la foi, il serait perdu. Donc comme j'ai dit, hein, c'est pas une question de savoir s'il va être sauvé ou pas, c'est une façon de porter sur lui une marque extérieure de son appartenance à la famille de Dieu. Ce qui est vrai pour tous les enfants, si on veut, dans un certain sens. Je crois qu'il y a une question là-bas.
Est-ce qu'il existe des écoles bibliques ou des instituts bibliques qui relèvent de vos assemblées? Ou bien est-ce qu'on considère que finalement c'est le devoir de chaque chrétien de se former et il n'y a pas besoin de spécialistes justement?
C'est tout à fait ce que vous avez dit en deuxième, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'école biblique ni d'institut biblique, même si quelques frères, occasionnellement, ils prennent des cours. Hein. Mais nous n'avons pas de structure à ce niveau-là. C'est vrai que, par contre, l'imprégnation biblique est intense dès l'enfance, école du dimanche. Et puis, si on suit assidûment la réunion d'édification du dimanche après-midi et celle de la réunion d'études du mardi soir, c'est vrai que ça donne un bagage biblique. Alors, je ne dis pas que, bon, on ne fait pas beaucoup d'exégèse. C'est vrai, ça manque peut-être un peu, une certaine rigueur. Mais en tout cas, l'imprégnation biblique, est, pour celui du moins qui veut bien s'en donner la peine, je dirais qu'elle est totale. Alors, est-ce qu'on peut revenir ?
Dans la célébration du culte, chaque personne inspirée par l'Esprit peut prendre la parole.
Oui.
Est-ce que les dames ont les mêmes droits que les hommes ?
Alors celle-là, je l'attendais. Je l'attendais même en premier. Donc, alors, c'est vrai que, au fur et à mesure des exposés, je me suis aperçu que nous avions là-dessus, sur la place de la femme dans l'Église, hein, sûrement l'attitude la plus conservatrice. À moins, ou alors peut-être les orthodoxes ou les catholiques seraient plus proches de nous que la plupart des évangéliques. Alors, comment dire ? Bon, je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, c'est évident. Bon, première base, c'est que notre désir, c'est avant tout d'être biblique. Hein, ça, c'est point numéro un. Alors, que dit la Bible ? Au niveau, on va distinguer plusieurs choses. Est-ce que les femmes peuvent avoir les mêmes dons que les hommes ? Donc, au niveau compétences, réponse oui. Si je prends les dons de docteur, de prophète, de pasteur, d'évangéliste, dons de discernement, etc. Dieu donne à chacun comme il lui plaît, aux hommes comme aux femmes. Et ces dons peuvent s'exprimer. Ensuite, les femmes peuvent-elles avoir les mêmes charges ? Alors, nous parlons de charges dans l'Assemblée. Par charge, j'entends les évêques, les surveillants, hein, les anciens, et les diacres, les serviteurs. Alors, au niveau des serviteurs, oui, une femme peut être serviteur de Dieu, d'une façon ou d'une autre, puisqu'on a l'exemple dans Romains 16, de Phoebé, qui était servante, de diaconesse, si vous voulez, de l'Assemblée de Sancré à Rome. On a également dans les exhortations aux diacres une partie spécifique pour les femmes, dans Timothée. Donc, pas de problème au niveau du service. Par contre, pour la fonction d'ancien, bon, qui dit ancien dit autorité. Et donc, pour nous, Paul dit, il n'est pas permis à la femme d'user d'autorité sur l'homme. Donc, une femme ne pourrait pas être ancienne, si vous voulez. Alors, ensuite, troisième, il y a encore, on peut voir plusieurs volets. Troisième question, est-ce que les femmes peuvent prendre la parole dans l'Église comme les hommes ? Alors là encore, là je ne vais pas vous faire plaisir, nous appliquons aussi très strictement le verset de 1 Corinthiens 14 qui dit que les femmes se taisent dans les assemblées, il n'aurait pas permis de parler, qu'elles soient soumises. Alors, attendez. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ouvrent pas la bouche, c'est-à-dire qu'elles chantent, elles disent amen aux prières, mais elles ne prennent pas d'initiative. Elles ne prennent pas d'initiative, c'est-à-dire qu'elles ne... Bon, je vous dis les choses comme elles sont. Hein. Elles ne proposent pas de chant, elles ne prient pas au nom de tous, elles n'enseignent pas, je dis bien dans l'Église. Hein, je dis bien dans l'Église pour appliquer ce verset. Alors, je sais bien qu'il y a plein de théories du bavardage, c'est qu'il ne fallait pas qu'elles bavardent. Mais bon, je pense que ce n'est pas très sérieux. Je ne connais pas le grec, mais le verbe qui est utilisé, c'est l'aléo. Et c'est le même qui est utilisé dans le même chapitre pour les prophètes qui parlent, etc. Voilà, bon, vous en savez plus que moi, mais... à partir de là, je ne pense pas qu'il puisse s'agir de bavardage, ou alors c'est que le verbe s'utilise dans plusieurs sens. Mais enfin, on a pris une option à ce moment-là, hein, qui nous a arrangé, parce qu'au XXe siècle, évidemment, ça passe mieux. Alors... voilà, ça ne veut pas dire, donc je dis bien les réunions d'assemblée, c'est-à-dire j'entends par réunion d'assemblée ou réunion d'église, les réunions où toute l'assemblée est présente, où toutes les catégories humaines sont représentées. Ça ne s'applique pas à un groupe de jeunes, une école du dimanche, une campagne d'évangélisation, un camp évangélique. Là, on peut dire que les sœurs ont le même rôle que les frères. Hein. Par contre, dans ce que nous appelons une réunion d'assemblée, c'est-à-dire où tous sont là, il y a cet ordre d'un Corinthiens 14 et que, alors je n'ai pas à défendre Dieu quand il parle, mais il me semble que c'est une image de si vous voulez, l'Église est une image, la femme, pardon, est une image de l'Église, et l'homme une image du Christ. Donc il me semble que Dieu a voulu que dans l'Église, on voit de façon imagée la soumission de l'Église au Christ au travers du silence des femmes par rapport à l'initiative des hommes. Voilà, c'est peut-être difficile à accepter, mais je crois que dans nos assemblées, sincèrement, je ne pense pas que ce soit une cause de fuite de nos assemblées. Je pense que les sœurs parmi nous le vivent assez bien et elles ont su développer d'autres talents, en particulier l'hospitalité. Je dois dire que quand on est étudiant loin de sa famille et qu'on se retrouve dans une ville où il y a une assemblée, on sait que systématiquement on sera entouré, invité. Et je crois que ça vaut beaucoup de sermons. Ça rapproche de Dieu autant que beaucoup de sermons. Donc il ne faut pas vouloir faire tous la même chose. Hein. Il ne faut pas tous vouloir être prédicateur. L'édification de l'assemblée de Dieu, de l'Église, ça passe aussi par plein de petites choses, enfin aux yeux des hommes, qui sont grandes aux yeux de Dieu. Voilà, je savais que vous allez réagir, hein, mais j'ai dit ce que je crois.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la parole de Dieu est pour vous l'inspiration de la vie de votre Église. Mais quand vous lisez la parole, est-ce que vous la lisez dans une notion, je dirais, du mot à mot, issu du texte lui-même, ou est-ce que vous avez une lecture, je dirais, plutôt historico-critique, c'est-à-dire replacer la parole dans son histoire et dans la culture de l'époque?
Donc, assez peu de la deuxième manière que vous avez évoquée, c'est-à-dire que nous ne sommes pas très exégètes. Il n'y a pas beaucoup de bons exégètes parmi nous, de personnes qui ont du recul sur l'histoire, l'archéologie, la connaissance de la culture de l'époque. Je pense que ça manque à certains moments. Mais ça, peut-être que ça évite aussi de toujours vouloir relativiser le texte biblique, c'est-à-dire qu'on va dire oh, ça c'était pour l'époque parce que les coutumes locales étaient les suivantes, etc. Donc peut-être qu'on va vouloir limer un petit peu la puissance du texte biblique au lieu de l'accepter comme des petits-enfants. Nous ne sommes pas de bons théologiens, mais nous essayons d'obéir à la Bible en essayant de la comprendre le mieux possible. Bon, je pense que un petit peu de... une approche un petit peu plus large du texte biblique serait utile. Ceci étant dit, étant donné que la piété ne dépend jamais de l'intelligence, lire la Bible simplement comme un petit enfant, c'est peut-être la meilleure façon de l'aborder.
Je crois que dans ce domaine-là, on n'est pas plus mal loti que les autres. Parce que nous avions des réunions d'ensemble de différents frères qui étaient très, très érudits dans ces choses et qui nous ont vraiment enseigné la parole d'une manière certainement aussi importante que dans beaucoup d'autres domaines. Et je peux le dire parce que j'en ai profité, il y a eu des réunions d'études qui étaient extraordinaires et des gens poussés par l'esprit ont reçu du Seigneur directement des choses très très importantes. Ça, je crois, de ce côté-là. Ce que je reprocherais le plus à nos frères, c'est la question de la table du Seigneur.
Ah, alors c'est... Oui. Donc, celle-là, je l'attendais aussi.
oui, une petite remarque. Le sujet qui est abordé, c'est la table du Seigneur.
Oui, je reviens juste un instant sur l'approche un peu plus théorique, enfin plus large de la Bible. Il existe quand même en Suisse, je le mentionne, ce qu'on appelle des rencontres d'études bibliques systématiques, ou alors on a une approche assez théologique et de la lecture biblique, donc pour apporter des compléments liés à l'histoire, etc. Ça existe quand même, assez récemment. Donc, oui, la question de la table du Seigneur. Donc, bon, je l'ai un peu dit dans ma conclusion, c'est vrai que se pencher sur l'histoire des frères, c'est s'apercevoir que au début, il y avait une très très grande ouverture par rapport aux autres croyants, c'est-à-dire que ces croyants qui venaient d'autres églises étaient très très facilement reçus pour la fraction du pain, pour la scène du Seigneur. Et effectivement, selon les époques et selon les lieux, la position s'est durcie. Bon, ceci étant dit, voilà, je peux vous dire qu'à Montbéliard, il n'y a encore pas très longtemps, des personnes venant de notre milieu, c'est arrivé plusieurs fois, ont participé à la Sainte-Seine. Donc voilà, je crois que ça peut être des positions se sont durcies localement, suivant les époques, peut-être en réaction par rapport à certaines craintes, etc. Ce qui est regrettable et qui est apparu sectaire très souvent, et ça je le reconnais. Bon, il y a aussi quand même un équilibre à trouver, c'est-à-dire que nous voulons quand même, si vous voulez, bon, il y a bien le verset qui dit que chacun s'éprouve soi-même, donc ça ramène à la responsabilité de chacun, mais nous pensons aussi que nous ne pouvons pas laisser des non-croyants, par exemple, participer à la Sainte-Seine. Ça serait une aberration. Donc nous voudrions au moins nous assurer qu'une personne est chrétienne, est convertie. Bon, pour le reste, effectivement, alors nous avons cette habitude parmi nous d'avoir des lettres de recommandation, c'est-à-dire qu'un croyant qui vient d'une de nos assemblées a une lettre de son assemblée qui dit « Voilà, cette personne qui vient parmi vous est croyante, elle fait partie de notre assemblée. » Alors ça ne se pratique pas ailleurs, ce qui fait que certaines assemblées vont dire « Ben, ce croyant, on n'a aucune preuve qu'il est... C'est cette personne, on n'a aucune preuve qu'elle est croyante, etc. » va dire « Il faut attendre, observer, etc. » D'autres diront « On peut bien... par charité, faire confiance et puis dire ben écoutez, on vous fait bien confiance, vous participez avec nous, et ensuite ça nous laisse le temps d'examiner son cas plus en détail. Mais le principe de base des frères, il faut le dire tout haut, hein, c'était quand même le pain que nous rompons, c'est le verset que j'ai affiché tout à l'heure, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Christ? Donc à partir du moment où un croyant est membre du corps de Christ, c'est-à-dire de l'Église en général, formée de tous les croyants qui se trouvent dans quelque milieu que ce soit, nous pouvons l'accueillir à la Sainte-Seine, puisqu'elle témoigne de cette unité qui va au-delà des dénominations. Et ça, je reconnais que ça a été souvent perdu. C'est pas appliqué partout de la même manière.
Vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y avait un groupe de jeunes. Donc, comment se déroulent les soirées ou les réunions du groupe de jeunes et quelles en sont les activités?
Alors, c'est vrai que la façon dont se déroule réunion n'est pas tout à fait applicable à d'autres activités comme groupe de jeunes, école du dimanche. Vous comprenez bien que ça ne peut pas se passer de la même manière. Évidemment, on ne va pas arriver, s'asseoir et attendre. C'est vrai qu'il y a des préparations, etc. Alors, une rencontre d'un groupe de jeunes, ben, je vais vous dire exactement comment ça se passe. Donc, on arrive en un petit moment de chant d'une demi-heure. Ensuite, l'un d'entre nous prie. Et puis, on a à chaque fois un thème biblique. Alors, il y a un programme qui est prévu sur l'année. Donc, on a une rencontre tous les 15 jours. Donc, il y a un thème par réunion. Et on se divise en deux groupes selon les âges, qui abordent des thèmes différents. Et ensuite, souvent, l'un d'entre nous prépare un petit exposé. Et ensuite, il y a un partage. On échange sur le sujet. Et ensuite, à la fin, un petit moment de prière et un nouveau moment de chant. Voilà.
En tant que sujet de Sa Majesté la Reine Elisabeth, je n'ai rien contre l'amiral Nelson, mais ce que je voulais demander, c'est une question qui m'étonne toujours. Malgré des années d'études théologiques, je ne comprends pas comment les églises qui se disent évangéliques puissent ne pas accepter une succession apostolique par ordination. Du moment où c'est pratiqué, enseigné par saint Paul dans ses lettres à Timothée, pratiqué dans les apôtres et dans toute la documentation de l'époque subapostolique que nous possédons. Pouvez-vous dire quelque chose?
Oui, oui. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, c'est pas que nous renions qu'il y ait pu avoir l'existence d'une transmission apostolique du sacerdoce par ordination. Mais si vous voulez, Darby a estimé qu'elle était perdue parce que j'aurais pu vous citer des extraits, des citations. Il disait, je connais des prêtres dont je sais qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu et qui sont consacrés. Je sais que les croyants les plus zélés que je rencontre autour de moi se retrouvent systématiquement en marge et sont interdits de prédication. Donc comment puis-je encore croire que cette transmission continue à se perpétuer? Pour lui, elle était perdue, elle a été perdue. Elle a, si vous voulez, c'est comme un arbre auquel on a coupé toutes les branches. Donc, il disait, je préfère qu'on considère que chacun doit recevoir directement du Seigneur, sans intermédiaire humain, le don, ou du Saint-Esprit, le don pour agir dans l'Église. Allez-y.
Qu'il fondera son église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alors, apparemment.
Oui, alors, tout dépend de ce qu'on appelle l'église. Parce que l'église, ce n'est pas seulement ceux qui sont ordonnés. Effectivement, Darby a une vision, il parle de la ruine de l'église. Au sens de la structure, la partie visible, l'aspect extérieur, visible témoignage sur la terre. Mais par contre, il est convaincu que parmi toutes les dénominations se trouvent des vrais croyants qui constituent l'Église. L'Église n'a pas besoin de structure visible, puissante, fonctionnelle. Non, pour lui, l'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont au Christ. Même s'ils sont dispersés, même si l'édifice n'a pas de puissance extérieure. Voilà, que chacun ait affaire au Seigneur et cette église vit, elle vit.
D'autre part, il parle justement que Jésus est notre souverain sacrificateur. Alors, nous sommes les officiants. Il est toujours le souverain sacrificateur de toutes les églises, aussi bien de celles qui s'appellent d'un isme quelconque, etc. Alors pour nous, il n'y a pas de, enfin pour les évangéliques, il n'y a pas besoin d'homme qui est nommé, etc. Il reçoit directement du Seigneur son ordination.
Voilà. Si vous voulez, c'est une vision de l'Église qui correspond à une ruine de ce qui est visible. Mais alors à ce moment-là, chaque croyant est considéré individuellement, membre d'une assemblée locale, et au-dessus, il n'y a plus rien sauf le Christ. Donc chaque croyant fait partie d'une assemblée locale et chaque assemblée locale doit être soumise au Christ, tout simplement. C'est une vision, simplifiée, qui correspond à un temps de ruine, et parce que Darby estimait que la transmission apostolique s'était perdue.
Dans la mesure où vous nous avez dit qu'il n'y a pas de ministère ordonné ni nommé, d'une part, et que d'autre part, vous n'avez pas de liturgie, comment se passent les baptêmes, la Sainte Cène, dans quels textes sont dits, comment ça se déroule et qui est-ce qui préside ou qui officie?
D'accord. Alors, je vais distinguer les baptêmes et la Sainte Cène. Donc, le baptême, souvent, c'est vrai qu'un frère on va baptiser une personne, hein, donc il est un petit peu seul responsable du déroulement de la cérémonie, entre guillemets. Par contre, pour la Sainte-Cène, donc, qui a lieu pendant le culte, le dimanche matin, ben, si vous voulez, c'est pas compliqué, hein, tout le monde arrive, on s'assied sur les bancs, et puis on attend. Il n'y a rien de prévu à l'avance, si vous voulez, on attend, et puis voilà, un frère propose un chant, un autre se lève et rend grâce à Dieu, un autre propose un deuxième chant, et ça continue comme ça. Donc il n'y a pas de... chaque frère est censé devoir être dépendant du Saint-Esprit c'est ce qui est dit dans Corinthiens 14, hein, l'un de vous a-t-il un psaume, une parole, que tout se fasse avec ordre, etc. Chacun est sous l'inspiration directe du Saint-Esprit. Alors évidemment, quand on l'a jamais vu, ça paraît incroyable, enfin, ça paraît de l'improvisation constante. Mais c'est à chacun, là aussi, d'avoir une vie spirituelle suffisamment proche de Dieu pour être prêt à apporter ce qui est bien placé au bon moment. C'est certainement idéaliste. Si personne n'est spirituel, l'assemblée disparaît en peu de temps. Les réunions sont vides et l'assemblée disparaît. Mais si c'est vécu avec la communion avec Dieu... C'est certainement une expérience très heureuse. Alors la Sainte-Cène, pardon. Donc souvent, le culte est suivi de la Sainte-Cène. Donc à ce moment-là, après un moment de louange, si vous voulez, fait de chants et de prières, un frère béni rend grâce à Dieu. Puis il prend une assiette sur laquelle a été posé un pain, il le coupe, il le rompt en deux et on le fait circuler dans les rangs. Et ensuite, il bénit à nouveau et il prend la coupe et circule à nouveau dans les rangs. Donc tous les croyants, enfin les fidèles, les croyants, ceux du moins qui en ont exprimé le désir, hein, c'est-à-dire peut-être pas des petits-enfants, participent aux deux espèces, à la fois le pain et le vin.
Merci beaucoup. Je pense que nous allons tenir la demi-heure que je vous avais fixée. Je laisse encore quelques minutes la parole à Henri Nau. Pierre Henri Nau.
Ben, moi, j'ai terminé. Enfin, bon. Ah oui. Alors, donc c'était le dernier exposé. Alors, on a prévu un petit peu, en guise de conclusion, si vous voulez. Le groupe de jeunes donc, de l'Assemblée de Montbéliard est venu et on va vous chanter un petit chant qui servira un peu de conclusion. C'est « Aimons-nous les uns les autres ». Je crois que c'est ce qu'on peut dire à l'issue de ces exposés.